vous rappeler, sûrement avec émotion, d'un évangéliste de l'Église du Dieu vivant qui a travaillé pendant plus d'une cinquantaine d'années avant de décéder, il y a une couple d'années, M. Dibard Appartient. Et quand on pense à M. Appartient, on pense à lui comme un homme inspirant et tellement encourageant. C'est un monsieur qui avait l'art d'encourager tout le monde, tous ceux qu'il rencontrait, et de considérer tous les gens qu'il rencontrait. Pourquoi il était tellement inspirant et pourquoi il était tellement encourageant? C'est parce que M. Appartient s'appliquait toujours à voir le beau côté de toutes les situations. Que ce soit des situations faciles ou pénibles, voire même les épreuves. Il venait à bout de trouver dans des situations éprouvantes le beau côté de ces choses-là pour en tirer le meilleur parti. Un peu comme Dieu, pas comme un peu, mais comme Dieu le montre dans sa parole. On doit voir les choses comme Dieu les voit, avec la finalité que lui a en tête. Et M. Appartient s'appliquait toujours aussi à voir le bon chez les autres. Chez tous les êtres qu'il rencontrait, qui que ce soit, quelle qu'a été la condition de ces gens-là, il voyait toujours du bon dans tous les êtres humains, malgré leurs faiblesses, malgré leurs limitations. Parce que ce faisant, il voyait aussi le potentiel que Dieu avait mis dans tous les êtres humains. Et c'est vrai, c'est le même potentiel pour tous les êtres humains. Même si Dieu n'appelle pas pour l'instant l'ensemble de l'humanité, Dieu a donné le même potentiel à tous les êtres humains d'un jour faire partie de sa famille, autant que lui a décidé. Alors, dans ce sens-là, on peut dire que M. Appartient est un homme très, très, très positif. D'où le titre de mon message aujourd'hui, « Un chrétien est positif ». Cette attitude-là, il faut la développer. On ne l'a pas de façon innée. Certains sont plus portés à être positifs que d'autres, c'est vrai. Vous avez des gens que vous rencontrez, ils ont toutes les raisons pour que ça aille bien et ils vont trouver les points qui ne vont pas bien, au lieu de mettre l'accent sur ce qui va bien, sur ce qui est bon, puis d'être encouragé. Je me rappelle dernièrement, j'ai salué une de nos voisines qui travaillait sur son terrain à l'extérieur, puis je lui disais, « Madame, c'est magnifique la journée qu'on a aujourd'hui, alors que l'automne avance, on a encore du beau soleil puis de la chaleur. » J'étais tout content de goûter ça, puis elle semblait apprécier ça. Elle dit, « Oui, mais il annonce de la pluie dans les prochains jours, là, ça ne durera pas. » Ouais, OK. Voyez-vous, alors on parle de quelque chose de beau, de bon à goûter, mais au lieu de goûter ce qui est là, sans s'en rendre compte, on va chercher de quoi de moins intéressant plus tard pour le mêler avec aujourd'hui. Pourquoi ne pas goûter les choses présentes? M. Appartient nous disait ça souvent. Goûtez ce que vous vivez. Prenez le temps d'apprécier ce que Dieu vous donne, d'apprécier vos journées, d'apprécier un bon repas, d'apprécier une amitié, de connaître quelqu'un d'autre dans l'Église, de pouvoir servir. Prenez le temps de faire les choses, mais d'apprécier. Alors, c'est une attitude qu'on doit développer et qui est importante. Puis on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Avec l'aide de Dieu, on peut aller beaucoup plus loin et on peut se rendre au but d'entrer un jour dans le royaume. Et ça va loin, cette attitude-là, de s'habituer à voir le positif, parce qu'on peut l'appliquer dans notre façon de considérer les gens qu'on rencontre. De pas rester attaché à un petit point qui nous frappe, qui est peut-être négatif dans eux autres, puis à tirer nos conclusions ou à se faire une image de cette personne-là à partir de quelque chose d'extérieur ou même de quelque chose qu'on a entendu de cette personne-là. On fait ça souvent. Quand on voit la personne, on est porté à la voir avec les yeux de ce qu'on a entendu. Et dans 99,9999% des cas, ce n'est pas vrai. Alors, on dérange les situations à cause de ça. Faut apprendre à voir les choses positivement, à donner la chance aux coureurs, à apprécier les gens, à voir leur potentialité et à les aider dans la mesure du possible en les encourageant de toutes sortes de façons. Mais c'est une attitude, quand Dieu nous appelle à l'Église, qu'on apprend à développer. Certains l'ont un peu déjà, comme j'ai mentionné, vont la développer encore plus. D'autres l'ont moins en partant. Et ça va leur demander peut-être un plus gros effort. Mais ils vont y arriver, pas tout seuls. Comme on a mentionné dans la prière et dans la sermonnette, avec l'aide de Dieu. Tout ce qu'on peut réussir, c'est seulement avec l'aide de Dieu qu'on peut le réussir. Les choses valables, les choses d'une dimension spirituelle. Et cette façon de voir les choses, elle fait toute la différence dans notre cheminement spirituel puis dans le développement du caractère de Dieu. On sait que quand Dieu appelle quelqu'un à son Église, c'est pour que nous apprenions à devenir comme le Christ et comme notre Père, qu'on développe son caractère, leur façon de voir, leur façon de faire, leur façon d'agir. Les 10 commandements sont un reflet de la façon d'agir de Dieu, du caractère de Dieu. Alors, on est appelé pour développer ça. Et vous vous rappellerez que régulièrement, dans ses messages, M. Apartien nous amenait à réfléchir à ce sujet-là, en nous disant, quand vous vous éveillez le matin, c'est quoi vos premières pensées? Vous rappelez-vous de ça? M. Apartien disait ça souvent. À quoi vous pensez dès que vous vous réveillez le matin ou dès que vous mettez le pied en bas du lit? Est-ce que vous pensez à des choses bonnes ou à des choses mauvaises? Est-ce que vous pensez à des choses plaisantes ou déplaisantes, agréables ou désagréables, positives ou négatives? Là, il y a quelque chose qui se passe quand on se lève le matin. Automatiquement, on pense à quelque chose. Alors, ce que je veux vous aider à voir aujourd'hui, puis à me rappeler moi pour le mettre en pratique, c'est qu'on a un choix dans les pensées qui nous viennent, de les garder ou de ne pas les garder. M. Apartien disait, est-ce que vous êtes tout de suite hanté le matin, par exemple, par les divers problèmes que vous allez rencontrer au cours de la journée? Vous savez, la veille, que bon, vous avez telle chose à régler. En vous levant, est-ce que c'est ça que vous pensez en premier et que vous laissez ça occuper l'espace de votre esprit, même atteindre vos émotions et vous mobiliser d'une certaine façon? Est-ce que vous laissez ça faire? C'est pas pour rien qu'il demandait ça. Là, M. Apartien disait, pensez plutôt, quand vous vous levez, en vous levant, de dire merci à Dieu d'être encore en vie. Merci à Dieu de pouvoir encore penser à lui, de savoir que tout ce que vous êtes et que vous pouvez faire, ça vous vient de lui. Et déjà, vous vous mettez dans une attitude positive parce que on voit le beau, on voit le bien, et ça nous aide à démarrer sur un bon pied. Ça nous aide à commencer la journée en comptant sur celui qui s'appelle le Tout-Puissant et qui a promis de nous aider dans toutes nos circonstances. Et je reviens à ça parce que c'est important qu'on réalise ce principe-là. C'est que nous avons le choix de nos pensées. Souvent, les gens ne réalisent pas ça. Les êtres humains sont des êtres libres et nous avons le choix de nos pensées. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent à l'esprit, qui peuvent venir de toutes sortes de choses. De lectures qu'on a faites, de choses qu'on a vues à la télévision ou dans les nouvelles, de choses qu'on a entendues de d'autres personnes, d'expériences qu'on a vécues avant ou tout ça, ou de problèmes qu'on a à régler justement dans la journée ou dans la semaine. Et tout est là. Et ça, ça vient automatiquement, sans qu'on court après, pour ainsi dire. Mais si on ne maîtrise pas ces pensées-là, comprenez bien qu'on peut en devenir victime. Et que ça peut être ces pensées-là, lorsqu'elles sont négatives comme ça, qui teintent notre journée, qui nous orientent, puis qui nous amène à nous décourager davantage, puis, comme je dirais souvent, à gratter le bobo, au lieu de chercher la solution. Alors, on a un choix des pensées qui viennent le matin. C'est vrai au cours de la journée aussi, parce qu'on est des créatures libres. Et la maîtrise de soi, c'est d'abord la maîtrise de nos pensées. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. On doit demander à Dieu de nous aider de faire ça, et c'est très important. Je vous fais une comparaison. Bien sûr, comme toute comparaison, c'est boiteux un peu, mais ça peut vous donner une idée. Supposons que vous voulez regarder un film, vous avez un lecteur DVD, vous avez deux DVD. Un DVD avec un film de scénario triste, négatif, déprimant. Vous le mettez dans le lecteur DVD, vous regardez ça. Qu'est-ce qui vous vient, ces images-là, les émotions qui vont avec, les pensées qui se rattachent à ça? Si c'est, mettons, on regarde pas ça, nous, mais de la violence ou des choses comme ça, c'est des idées négatives, mauvaises, méchantes. OK? Alors, c'est ça qui vous influence. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? C'est qu'on se nourrit de ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne regarde pas les films de violence ou les films de perversion sexuelle ou ces choses-là, parce que Dieu nous dit, bouchez-vous les yeux par rapport à ça, regardez les choses qui sont bonnes, qui sont vraies, qui sont pures. Mais je reviens à mon exemple. C'est comme un lecteur DVD. Ou bien je mets un disque avec un film noir, ou bien je mets un disque le matin avec un film qui est joyeux, qui est positif, qui va m'amener à être encouragé au cours de la journée, puis par la force de Dieu, à être capable de rencontrer les difficultés, passer au travers. C'est ça la différence. Et ça détermine mon état d'esprit. C'est à nous de choisir. Vous savez, c'est notre bien-être puis notre progrès spirituel qui en dépend, du choix de nos pensées. Ça va loin. Je pourrais faire un message seulement là-dessus. Je peux pas le faire aujourd'hui, mais c'est important. De ça dépend notre bien-être puis notre progrès spirituel. de notre attitude de chaque jour, à partir du réveil, à partir du lever. Quel est mon état d'esprit? À quoi je pense? À quoi je consacre mon émotion, mon attention ou ma pensée? Si je les consacre tout de suite à mon Créateur, aux belles choses que lui fait, aux promesses qu'il m'a faites d'arriver au but, d'être capable d'arriver au but, voyez-vous que ce n'est pas du tout la même atmosphère. Et je n'aurai pas les mêmes émotions, les mêmes sensations, ni la même vision des choses pour entreprendre ma journée. Le choix des pensées que l'on garde ou non dès le réveil a une grande importance. Le chrétien doit être positif. Il doit choisir quel film il va regarder, qu'est-ce qu'il met dans son esprit. Et c'est pour ça qu'on doit chaque matin prier Dieu dès le début de la journée, s'en remettre à lui, aller lui parler, se confier à lui. C'est pour ça qu'on doit faire ça. Et c'est pour ça aussi que chaque jour, on doit étudier sa parole. À un moment donné ou l'autre de la journée qui nous convient le mieux, étudier sa parole pour être nourri des bonnes choses de Dieu. Ça a un but. C'est pas juste pour connaître théoriquement ou intellectuellement. La parole de Dieu, elle est vivante. Et si je m'en nourris chaque jour, elle agit en moi. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et si je commence ma journée va être teintée, elle va être colorée, elle va être basée sur des choses bonnes. C'est pour ça qu'il faut commencer nos journées en parlant à Dieu, en le priant, en l'adorant, en nous remettant entre ses mains. Commençant par l'adorer, puis ensuite lui soumettre nos problèmes. Vous savez, pour croître spirituellement, il faut penser de plus en plus comme Dieu. Et Dieu est un Dieu positif. Il faut penser de plus en plus comme lui et comme le Christ. Le Christ, même dans ses moments les plus difficiles, restait un être extrêmement positif. Pourquoi? Parce qu'il savait pourquoi il était là. Il connaissait le plan que lui-même avait établi avec son Père de toute éternité. Plan de salut pour l'humanité. Il savait que c'est pour ça qu'il était venu même souffrir dans la chair humaine. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé décourager, mais qu'il a demandé continuellement l'aide de son Père, parce qu'il était entièrement être humain. Et il a dit, ce que je vois faire au Père, je le fais. Je ne fais rien de moi-même. Le Christ lui-même disait ces choses-là. Alors, la plus forte raison, nous, êtres humains, avons besoin régulièrement de la force de Dieu chaque jour pour être capable de croître spirituellement et de penser de plus en plus comme Dieu qui est un être positif. Puis, en nous nourrissant de ces enseignements qui apportent la bonne perspective de la vie humaine et qui nous donnent confiance dans l'avenir. Ce Dieu qui ne ment pas et qui a toujours accompli exactement ce qu'il a annoncé d'avance. On le voit dans ses prophéties. Les prophéties qui se sont réalisées à date et les autres qui sont en train de se réaliser sous nos yeux et les autres dont on a la certitude de voir la réalisation sous peu parce que les choses se préparent. Bien sûr, on rencontre tous des obstacles. On en a tous des obstacles. On rencontre tous des épreuves de différents niveaux, des situations difficiles, même des situations, je dirais, souvent qui n'ont pas d'issue, pour lesquels, selon nous, selon nos yeux humains, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Mais pour Dieu, il n'est jamais pris dans un coin. Pour Dieu, ça n'existe pas, pas d'issue ou pas de solution. Si on lui remet dans ses mains, si on lui demande d'intervenir et qu'on fait notre part, Dieu, en son temps, va intervenir de la bonne façon. Mais je mets le grand « si » si nous faisons notre part. Parce que Dieu dit bien dans sa parole, « Je serai avec vous si vous êtes avec moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » C'est la condition. S'approcher de Dieu, ce n'est pas le connaître intellectuellement ou lire un peu sa Bible et dire « Je sais que Dieu existe. » Non, c'est faire sa volonté. Le Christ a bien dit, « Celui qui va entrer dans le royaume, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », qui parle du Christ et qui parle de Dieu à cœur de jour, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » On n'en sort pas. C'est noir sur blanc à plusieurs endroits dans la Bible. Et c'est encourageant en même temps parce que ça nous donne la voie à suivre. On a besoin de savoir quel chemin suivre pour arriver au royaume, pour arriver à recevoir la vie éternelle et à entrer dans la famille de Dieu. Alors, bien sûr, on a des épreuves, on a des obstacles, des maladies, des déceptions, des désillusions, des pertes, toutes sortes de choses qui se produisent. Mais à ce moment-là, il y a un verset qu'il ne faut pas oublier. C'est un verset qui est bon d'apprendre par cœur même. Allez dans Romains chapitre 8. Et j'espère que plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà par cœur, ce verset-là. Romains chapitre 8. C'est le fameux verset 28. Superbe passage, tellement, tellement encourageant. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien. Malheureusement, il y a certaines personnes qui citent ce verset-là en arrêtant là. Que toute chose concourt au bien. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai en autant qu'on tient compte du reste du verset. Ici, il s'adresse à des gens d'Église de Rome. Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On sait que pour le moment, Dieu n'appelle pas toute l'humanité. Mais Dieu n'est pas un Dieu injuste. Une fois que le retour du Christ aura eu lieu, Dieu va appeler à ce moment-là, comme c'est marqué dans les textes, tout le reste de l'humanité. Il n'est pas injuste. Il n'appelle simplement qu'un petit troupeau maintenant pour accomplir la mission de l'œuvre et développer le caractère de Dieu pour être capable de servir les nations sous le Christ après son retour. Alors, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Donc, il s'adresse à ceux que Dieu appelle du milieu du monde, son petit troupeau actuellement, et ça ne sera jamais un grand troupeau d'ici le retour de Christ. Mais ceux qui sont appelés et qui veulent voir toute chose concourir à leur bien doivent faire une chose ici, aimer Dieu, ceux qui aiment Dieu. Et c'est quoi aimer Dieu? Moi, je ne vous le définis pas. Les définitions humaines ne valent rien. Mais je demande à la parole de Dieu de le définir, c'est quoi aimer Dieu. Vous irez dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 3. 1 Jean 5 et le verset 3. Ça dit ceci. Encore là, c'est noir sur blanc. Ça, il n'y a aucune discussion possible. C'est l'apôtre Jean, l'apôtre des apôtres originaux qui a vécu le plus longtemps. C'est lui qui est décédé le dernier parmi les apôtres originaux. Alors, c'est lui qui écrit ceci. Alors, ceux qui disent que les commandements étaient abolis avant, là, ça ne tient pas la route non plus. Parce que l'apôtre Jean, qui était le dernier des apôtres originaux à vivre, a écrit ceci. « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est simple. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas de place pour la discussion. Les commandements sont toujours là. Et quelqu'un qui dit aimer Dieu, il faut qu'il s'applique à observer ses commandements, même s'il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits encore. Nous marchons vers la perfection. Mais nous devons être en train d'appliquer le mieux possible les lois de Dieu et de changer de jour en jour avec l'aide de Dieu et les différentes expériences qu'on vit. Mais l'apôtre Jean dit bien clairement ici que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et c'est pour ça que le même apôtre Jean, dans 1 Jean 2, verset 3, dit ceci. « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Ceux qui connaissent le vrai Dieu, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Ceux qui ne gardent pas ses commandements et qui disent connaître le vrai Dieu sont dans l'erreur, malheureusement. Pas méchamment, peut-être. Ils pensent connaître le vrai Dieu, mais ils font les choses à leur façon, ce qui leur plaît, selon leur nature humaine, et non pas ce que Dieu dit de faire. Ça, c'est toute la différence. Alors, je reviens à Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose maintenant, donc toutes les circonstances de la vie des appelés, de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui s'appliquent de mieux en mieux à observer les commandements de Dieu, pour ces gens-là, toutes choses vont concourir à leur bien. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit, parce que Dieu travaille avec eux et va les aider à passer à travers ces expériences difficiles. Va les aider à passer à travers ces expériences difficiles. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, M. Vachon qui est décédé, vous vous rappelez? M. Vachon, fidèle serviteur de Dieu, il y avait ses limitations, il y avait ses petits défauts, des choses qu'il ne comprenait pas encore, on le sait, puis on s'amusait avec lui, même de ces choses-là et tout ça. Et à un moment donné, sa situation de santé s'est vraiment dégradée. On espérait que Dieu allait le ramener à la vie. Même à un moment donné, lui en est venu à dire, ben, j'aimerais mieux que Dieu vienne chercher mon esprit. Et qu'après ça, je sois délivré. Alors, cet homme-là a passé des épreuves terribles, mais même dans l'épreuve, des derniers moments, j'étais avec lui. L'homme désirait être avec le Christ l'instant d'après. Et il faisait des blagues, il disait, « Moi, j'ai pas vu le commencement du monde, mais je veux voir la fin. Je veux être là. » Mais à la résurrection, à la première résurrection, quand Dieu va ramener à la vie ses serviteurs, M. Armstrong, Paul, Moïse et tout ça, M. Vachon sera là. Et là, on pourrait lui dire, « M. Vachon, vous allez voir la fin du film, là. C'était pas tout à fait fini quand vous vous êtes endormi. Il reste encore un bout. On va le regarder ensemble. » Vous aviez raison de dire, « Je veux voir la fin du film. » Vous allez le voir, la fin du film. C'est intéressant. Alors, c'est des promesses extraordinaires. Quand il dit, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Même ceux qui s'endorment avant que le Christ vienne, si c'est selon le dessein de Dieu, ils vont être là, debout, s'ils ont été fidèles. S'ils ont respecté leur part du contrat, ils seront là debout et ils vont faire partie du reste de l'histoire, devenir des êtres spirituels éternels dans la famille de Dieu. Vous savez, en tant qu'être humain, on a des hauts et des bas. On a des moments d'enthousiasme. On a des beaux moments de calme parfois dans notre vie où tout va bien pendant un certain bout de temps. Et puis, on y goûte, j'espère. J'essaye, quand ça va bien, de dire merci beaucoup. On est porté plus à parler à Dieu quand ça va pas bien. Mais quand ça va bien, des fois, je pense qu'on pêche par excès dans le sens qu'on ne dit pas assez merci. Et quand on prend le temps de dire merci que ça va bien, on apprécie plus ce qu'il nous donne à ce moment-là. Mais on a tous des hauts et des bas, des moments d'enthousiasme et des moments de difficulté. Mais si on met Dieu en premier, si on sait que ce que nous pouvons faire, comme la Bible dit, c'est Dieu qui l'accomplit en nous, par son esprit, lorsqu'on est proche de lui. Si on compte sur lui de cette façon-là, en sachant qu'à Dieu, tout est possible, comme la Bible dit, et que Dieu s'occupe de son petit troupeau, des enfants qu'il appelle maintenant, on sait qu'avec son aide, on peut avancer. On sait qu'avec son aide, on peut arriver à contrôler ces pensées-là, contrôler nos pensées, pour pas que ce soit elles qui nous mènent et qui orientent nos journées, mais qu'on amène toute pensée captive à Christ. Donc, qu'on les enligne sur ses pensées à lui, voir le grand plan, et ensuite, là-dedans, ce que nous avons à faire. Et là, vaincre les obstacles avec sa puissance, en étant de plus en plus convaincus que Dieu est réel, que Dieu est notre maître, non seulement notre maître, mais qu'il est notre bon papa. Et comme le papa parfait qu'il est, il veut notre bien en toute chose. Il sait ce qu'on a besoin. Il sait ce qui convient à chacun. Et c'est différent pour chacun de vous ici aujourd'hui. Et lui, il sait, il a la puissance de savoir ça. Quand, comment intervenir pour corriger certaines choses dans votre vie, ou pour vous encourager au bon moment, ou pour vous laisser passer à travers certaines expériences, pour que vous compreniez des choses que vous n'avez pas encore comprises. Voyez-vous, Dieu sait comment mesurer tout ça. Et c'est fascinant, on en parlait, mon épouse et moi, au déjeuner tantôt, c'est que dans la même circonstance, où certaines personnes vont vivre la même expérience, Dieu va faire profiter de différentes façons ceux impliqués. Il est capable de mesurer tout ça, lui, puis faire sortir que tout concourt au bien de ces gens-là, comme de sa petite famille dans l'Église. C'est fantastique. Et là, on le voit vraiment comme notre père. On le voit comme notre refuge. Et quand on était petit, hein, qu'on avait peur de quelque chose ou qu'on avait besoin, on courait vers notre père pour avoir l'aide, pour avoir la protection ou tout ça. C'est la même chose avec Dieu. C'est notre protecteur, c'est notre sauveur, c'est notre refuge, c'est notre sécurité. Et quand on fait ça, plus on fait ça, plus on avance avec assurance. Parce que plus on connaît le vrai Dieu, plus on sait qu'on peut compter sur lui, et plus on a la rassurance d'esprit de notre côté parce qu'on s'applique à obéir aux lois. Même si on n'est pas parfait, qu'on manque notre coup de temps en temps et qu'on est obligé de demander pardon, puis là, de recommencer le combat. On a de plus en plus d'assurance parce qu'on le connaît de plus en plus et on développe son caractère. Et on va réussir à avancer malgré les épreuves, malgré les contrariétés, malgré les difficultés, malgré les pertes, malgré tout ce que vous voulez. On va réussir à avancer avec assurance dans la mesure où nous nous appliquons à aimer Dieu, selon la définition que je vous ai donnée tantôt. M. Meredith en a parlé à quelques reprises dernièrement. Il dit, c'est dans la mesure où on s'efforce de plaire à Dieu et de lui obéir que Dieu réagit et qu'il nous donne de passer à travers nos épreuves de bonne façon, de réussir les examens qu'on a à passer. C'est ça. Quand vous regardez le livre des psaumes, par exemple, c'est un livre formidable. c'est une source de réconfort extraordinaire. Puis c'est une source de consolation. Parfois, vous allez prendre un psaume, vous lisez le psaume, puis ça vous redonne de l'énergie. Vous voyez ce que Dieu a fait, vous voyez les belles choses qu'il y a là-dedans. Mais en même temps, il y a certains psaumes, j'attire votre attention là-dessus, qui ont un aspect négatif. Je vois que certains me font signe de tête. Oui, il y a des psaumes qui ont des aspects négatifs, et même beaucoup. Mais vous regarderez bien, faites l'analyse de ces psaumes-là. Quand vous avez dans un psaume un passage ou un bout qui est très négatif, à ce moment-là, c'est que l'être humain qui l'a écrit exprime, lui, ses sentiments humains d'abattement, de tristesse et d'affliction. Et c'est pas mauvais d'exprimer nos douleurs, nos misères, ce qu'on ressent. Et on en voit dans le cas de David. David l'a fait dans certains psaumes où il disait comment il se sentait malheureux. Oui, un creux de vague, comme nous on a parfois, un creux de vague. Mais les psaumes, dans l'ensemble, sont très positifs. Et il n'y a pas un psaume, à ma connaissance, qui n'a pas un grand encouragement dedans et qui ne se termine pas par une louange à Dieu. Justement parce que c'est lui qui est le premier. C'est son plan qui compte. C'est l'avenir final qui est le plus important. Et quand David voyait les choses de cette façon-là, il était capable de passer à travers. Allons voir, par exemple, le psaume 22. Ça vaut la peine. Psaume chapitre 22. Ce psaume-là, David l'a sans doute écrit dans une période de chagrin, dans une période de douleur, de détresse intense puis d'affliction, parce que les paroles sont fortes. Psaume 22, on va lire le verset 2 et 3. Regardez ce que David dit. Et c'est une prière qu'il adresse à son père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il se sentait abandonné par Dieu à ce moment-là. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Est-ce qu'on ne se sent pas comme ça parfois? Dans des grandes détresses qu'on a, ou dans des grandes angoisses, ou dans des grandes difficultés, on a l'impression que Dieu est loin, que Dieu n'a pas répondu, que Dieu nous a peut-être même abandonnés. On peut voir les choses dans ce sens-là. Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai pas de repos. On sait que le Christ a cité ces paroles-là lorsqu'il est arrivé le temps d'être mis en croix. Et c'est le Christ qui avait inspiré David aussi d'écrire ce psaume-là. Mais David ressentait une situation particulière quand lui a écrit ces paroles-là parce qu'il les vivait. Alors, c'était une situation pour lui qui était sans issue, David. On le voit, il n'y a pas de porte de sortie, là. Et il n'y avait pas de réponse. Et quand on voit ça, je ne peux pas vous dire que c'est des pensées positives, là. C'est pas des pensées positives. Il dit, tu m'as abandonné, tu t'éloignes sans me secourir, je crie tout le jour, j'ai pas de repos, j'ai pas de réponse. C'est pas des pensées positives, c'est des pensées négatives. Et c'est une réaction humaine normale. Parce qu'il faut voir que les êtres humains sont encore humains. Et il y a une normalité à être humain. Et il faut pas se sentir coupable lorsqu'on se sent un peu abattu et que parfois il y a des idées comme ça qui peuvent nous venir. J'ai pris la peine de dire qu'il y a des idées comme ça qui peuvent nous venir. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les garder. On peut changer le DVD, vous savez? Et c'est ce que David a fait tout de suite après, comme on va le voir tantôt. On ne doit pas demeurer là-dedans. On ne doit pas rester paralysé par une telle réaction et que ça nous empêche d'avancer. C'est ce que David a fait. Il s'est tourné tout de suite vers le Tout-Puissant. Il a changé le DVD. Qui lui était venu à l'esprit de se sentir abandonné, impuissant, de voir la non-issue d'une situation pour mettre le DVD de la puissance de Dieu. Regardez le verset 5 et 6 ensuite. Tout de suite après avoir dit, là, tu t'éloignes de moi sans me répondre, je crie jour et nuit, j'ai pas de réponse. Verset 5, il dit, en toi se confiaient nos pères. Non, verset 4, pardon. Pourtant, tu es le Saint Dieu. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Voici le DVD positif que David met tout de suite. Père, tu les délivrais, mes ancêtres, là. Je sais, j'ai vu les textes et je sais ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Donc tu répondais. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Voyez-vous, il a mis le DVD de la puissance de Dieu. Il dit, moi, là, je vis encore ça, Dieu. Je viens de te dire que je me sens abandonné, mais je sais que tu ne nous abandonnes pas parce que je sais que tu n'as jamais abandonné les Israélites. Il y a plein de choses dans l'histoire qui montrent que tu es intervenu dans des situations extrêmement difficiles. C'est quoi la solution, donc? C'est de ne pas rester concentré sur nos problèmes. Ne pas laisser jouer ce DVD-là de nos problèmes dans le lecteur DVD de notre esprit. De changer le DVD pour avoir la perspective de Dieu. David a tout de suite concentré son attention sur Dieu plutôt que de garder son centre d'attention sur ses problèmes. Les problèmes n'étaient pas encore partis, mais il s'est centré sur Dieu. Et là, ça commençait déjà à changer des choses. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat? C'est qu'il a repris confiance. Et on n'aborde pas la journée de même façon quand on a confiance en Dieu, qu'on sait qui il est, qu'on peut compter sur lui, et qu'on a la certitude qu'il va agir, qu'il va nous répondre en son temps, à sa façon. Ça change tout. Ça change tout. Là, ça devient plus léger, même si on n'a pas encore la réponse à nos problèmes. Même si le problème qu'on a n'est pas encore réglé. Quand on est abattu, quand il nous arrive d'être démoralisé, il faut, comment je dirais, tout de suite trouver les raisons d'être positif, selon Dieu. Trouver les raisons d'être positif. Par exemple, on peut, M. Appartient en parlait souvent aussi, compter nos bénédictions. Comptez nos bénédictions. Et je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui ont un petit livre dans lequel ils marquent toutes les fois que Dieu les a bénis, toutes les fois que Dieu a répondu à des prières, toutes les fois que Dieu est intervenu pour eux dans certaines circonstances. Et quand il y a des temps difficiles qui viennent, où ils sont comme David, là, qui se sentent abandonnés, qui se sentent sans force, ils retournent dans le petit calepin, dans le petit cahier, pour revoir tout ce que Dieu a fait pour eux. Et à ce moment-là, ces gens-là se rappellent que, comme on a vu tantôt dans la sermonnette, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore. Si moi, je continue à faire ma part, je peux absolument compter sur Dieu de façon totale. Et là, je peux lui exprimer ma reconnaissance. Je peux lui dire merci de tout ce qu'il a fait. Et je peux même lui dire merci. Et ça, je l'ai déjà fait, puis ça change des choses. Lui dire merci de la réponse qu'il va nous donner, même si on ne l'a pas eu encore. Même si on ne sait pas comment une situation va se terminer, mais qu'on est assez proche de lui, qu'on a jeûné, qu'on a prié, qu'on essaie au mieux de faire sa volonté, on a cette assurance que Dieu va nous répondre, et là, on peut lui dire merci de ce que tu vas faire. Je ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas agir en ton temps. Donne-moi d'avoir la patience qu'il faut. Aide-moi à attendre et à rester fidèle. Allez dans Matthieu chapitre 6 maintenant. Matthieu chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. C'est le modèle de prière que le Christ nous a laissé. Le Christ ne nous a pas dit de répéter cette prière-là, on le sait. Mais c'est un exemple de prière pour nous montrer comment on doit s'approcher de Dieu. Et cette approche-là dont je vous parle, elle est très claire dans la prière modèle. De mettre Dieu en premier et de commencer par regarder les choses dans sa perspective. De commencer chaque jour en mettant le film de choses positives, en mettant le bon DVD et en disant à Dieu que tes priorités, Père, soient les miennes. Regardez Matthieu 6, on va commencer au verset 9. Verset 9 et 10. Le Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, regardez bien, c'est tourné vers qui? C'est pas tourné vers moi. Quand je commence à parler à Dieu dans ma prière, que je dis que je l'adore parce qu'il est le créateur de toutes choses, que c'est lui l'être le plus important de l'univers, que c'est lui qui m'a tout donné, que je l'en remercie, que c'est lui qui bénit mes frères et mes sœurs, qui a guéri un tel, qui a guéri M. Labrie, qui a guéri d'autres dans le passé, que je leur remercie de ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me place dans une position où je vois la puissance du Dieu que je sers. Et je m'en vais dans le chemin positif de marcher avec Dieu et d'être influencé par sa conception des choses, par sa façon de voir, par sa façon de faire. Et plus je fais ça comme ça, plus Dieu me bénit, plus Dieu me communique sa force. Je recommence. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et là, on peut élaborer de toutes sortes de façons que c'est lui l'être le plus important, que c'est le plus puissant, que c'est lui qui est à la source de toute la création, qui a créé toutes choses pour le Christ et par le Christ. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas de nom plus grand que le sien. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, on peut dire à Dieu, Père, je souhaite que ta volonté soit faite partout sur la terre. Qu'il n'y ait plus de guerre. Que les gens vivent selon tes lois parfaites. On sait que ça va venir quand tu vas envoyer le Christ. Envoie le Christ au plus tôt. Mets un terme à toutes ces souffrances et à toutes les horreurs qu'on voit dans les bulletins de nouvelles chaque jour. Que ton règne vienne. Voyez-vous, j'ai pas les yeux sur moi et sur mon problème. J'ai les yeux, dans le fond, sur la souffrance de l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce que j'amène devant Dieu. Et je dis, Dieu, toi, tu es le Tout-Puissant, tu as promis que ça allait arriver. Hâte ce jour-là. Mets un terme à toute cette souffrance et au malheur qui accable les êtres humains, à tout ce qu'on a amené sur nous de souffrance en tant que race humaine. Et ce faisant, de quoi est-ce que je parle à Dieu? De ce qui est très important pour lui. De la bonne nouvelle du royaume qui va bientôt être établi sur la terre. C'est ça. Je suis en train de parler à Dieu de son royaume, que ton règne vienne. Et là, je peux lui dire après ça, Père, fais que ton règne vienne dans ma vie à moi et dans la vie des membres de l'Église. Parce que le royaume, la façon de vivre dans le royaume, ça doit commencer par ceux qui sont appelés dans ton Église. Donne-nous de devenir tes enfants à part entière, dans le sens qu'on développe le même caractère, qu'on soit soucieux des autres et qu'on ait le courage et la foi nécessaires. Donne-nous le courage et la foi nécessaires qu'on a besoin aujourd'hui, et qu'on aura besoin pour terminer le travail jusqu'au retour de Christ. Parce que les jours qui viennent sont des temps difficiles. Voyez-vous, on peut parler à Dieu de cette façon-là. Et quand on parle à Dieu en commençant comme ça, c'est fantastique ce qui se passe. Il y a une dynamique qui se crée. Parce que là, Dieu nous donne sa force. Dieu nous donne sa vision des choses. Et on entre dans son projet. Et Dieu est content. On plaît à notre Père. Et à ce moment-là, Dieu est prêt à nous répondre pour nos besoins. Après qu'on a parlé de cette façon-là pendant un bon bout de temps dans notre prière, on peut lui demander de prendre soin de nos besoins personnels. Et Dieu va prêter l'oreille et Dieu va répondre selon ce que lui sait être le mieux pour nous. Voyez-vous, c'est l'ordre dans lequel on doit faire les choses. Et quand on commence comme ça, on a résumé, dans le fond, tout l'Évangile pour lui, à ses yeux. Alors, plutôt que de commencer nos prières par une série de demandes, en présentant une série de problèmes qu'on peut avoir, si je commence à prier Dieu avec ce que j'appellerais cette attitude positive, selon Dieu, selon ce que le Christ m'a demandé de faire, je commence d'une façon positive ma prière. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai automatiquement davantage confiance en Dieu. Et j'ai plus de foi. J'ai plus de foi. Pourquoi? Parce que en faisant ça, je m'aide à réaliser que le Dieu qui m'entend peut toute chose. Que le Dieu à qui je m'adresse n'est pas limité dans son pouvoir. Et que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Vous savez, dans ces moments de faiblesse, je reviens à David, dans ces moments de faiblesse humaine, David doutait. Mais David ne doutait pas de Dieu. David doutait de David. David doutait de lui-même et il doutait de ses capacités à lui d'arriver au bout. Et il avait raison, parce que moi aussi j'ai raison de douter de mes capacités à moi de me rendre au royaume. C'est pas par ma force, absolument pas, absolument pas. Alors même si David a douté de lui et de ses capacités de réussir, David n'a jamais, et ça c'est important, David n'a jamais douté de Dieu. Je prends le temps d'arrêter parce que c'est un point important. David n'a jamais douté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Il a toujours eu une foi absolue en son Créateur, même s'il a vécu des épreuves terribles. Vous savez que David a été une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, en fuite devant le roi Saül qui cherchait à le tuer. Pourtant, David avait été oint comme prochain roi sur Israël. Et c'est lui qui était en fuite, qui vivait dans les déserts, dans les cavernes, avec des brigands, comme la Bible mentionne, qui sauvait sa peau de jour en jour. Il a passé à travers tout ça. Il n'a jamais douté de Dieu. Pourtant, il aurait eu toutes les raisons de dire, « Tu m'as oint un roi, et je suis loin d'être un roi. Le roi veut me tuer. Qu'est-ce qui se passe? » Il n'a jamais été dans ce sentier-là par rapport à Dieu. Il n'a jamais remis Dieu en cause. Regardez psaume 37, ça vaut la peine. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37 et le verset 3. Ça rejoint un peu la prière, le modèle de prière que le Christ nous a donné. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Fais la volonté de Dieu. Considère Dieu comme le premier dans ta vie. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça, c'est ma part à faire. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ici, la traduction dans 8 secondes est comme plutôt littéraire et ça rend pas tout à fait tout le sens que ça doit avoir. Si on va dans King James, c'est plus clair, c'est plus précis, c'est plus direct. C'est « aie le pays pour demeure » et « feed on his faithfulness ». Nourris-toi de la fidélité de Dieu. Nourris-toi de la fidélité de Dieu. Donc, compte sur le fait que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il va répondre à tes besoins. Et ça, c'est l'attitude qui nous assure de ne jamais nous détourner de Dieu, de se confier toujours en lui et de nous appliquer toujours à vivre selon ses voies. Ça, c'est ce qui va nous garder collés sur Dieu pour être capable de nous rendre jusqu'au royaume. Et regardez le verset 4, juste après. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais vous savez une chose, avec les années, j'ai appris quelque chose. Et M. Appartien nous l'a appris aussi, cette grande vérité-là. C'est que mon principal désir, ça doit devenir de faire la volonté de Dieu. Ça doit être ça que mon cœur désire d'abord. C'est ça que Dieu veut voir dans nous autres. Qu'on soit tellement attaché à lui, qu'on voit la splendeur de ses lois, de ses voies, du monde nouveau qui s'en vient, pour dire, moi, je veux en faire partie, je veux servir Dieu maintenant et le servir éternellement et aider les autres êtres humains dans le monde de demain. C'est ça. Alors, mon premier désir, le plus important, c'est d'avoir Dieu comme priorité et son but à lui comme mon but à moi. Et après mes autres désirs, Dieu va en prendre charge, Dieu va en prendre soin. Comme j'ai expliqué dans la prière modèle tantôt, on commence par parler à Dieu de son projet, de ce qu'il est, de faire en sorte que son règne vienne, et après on peut lui soumettre nos besoins et nos demandes. Et Dieu va se charger par la suite de nos besoins et même de certains de nos désirs légitimes qui changeront peut-être pas la face du monde. Mais des fois, on désire des petites choses. On aimerait avoir telle chose ou on aimerait que telle chose se réalise autour qui ne changera pas l'histoire du monde, mais pour nous autres, ça, c'est important. Mais Dieu, parfois, le fait arriver, ces choses-là, qui n'ont pas d'importance pour personne d'autre, mais qui en ont pour nous. C'est fantastique. Ça revient à un autre passage auquel vous pourriez rattacher le même principe que je vous explique. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. On veut être dans son royaume, on veut être dans sa famille, on veut avoir la vie éternelle. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, mais c'est associé à d'autres choses. Et sa justice. Ça, c'est pratiquer les voies de Dieu, là. Chercher le royaume, oui, mais en même temps, pratiquer de mettre les voies de Dieu en action dans ma vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Là, il parlait de l'habillement, du manger et tout ça, mais même les petits désirs qui vous feraient plaisir, parfois, il les accorde et Dieu va vous accorder le restant par-dessus. Fantastique! Dieu ne demande pas mieux que de nous bénir, mais je dirais, arrêtons de l'empêcher de nous bénir. Ayons à cœur de faire sa volonté. Que mon premier désir, ce soit de faire son œuvre, de transformer mon caractère, de devenir plus comme le Christ, de devenir plus comme lui. Vous savez, c'est pas vraiment possible d'être reconnaissant à Dieu, puis de le remercier. Et c'est pas vraiment possible de faire de Dieu, de l'Éternel, mes délices, d'aimer ses voies et d'aimer ses lois, si je garde un cœur triste, si je garde des pensées négatives, si je les entretiens, qu'ils viennent, j'ai pas le choix, ça vient. Ça vient, c'est comme des pensées mauvaises qui viennent à l'occasion. On n'a pas cherché, mais la pensée vient. Mais il faut la rejeter. On n'a pas transgressé, elle est venue. C'est comme si vous allez parfois dans un lieu public et vous avez une photo qui est d'une personne à demi-nue. Vous n'avez pas fait par exprès, vous l'avez vue, elle est là. Mais restez pas dessus, regardez ailleurs. Je regarde ailleurs, je la garde pas et je l'efface de ma mémoire. Voyez-vous? C'est la même chose pour ces choses-là. On peut pas garder un cœur triste et des pensées négatives, puis en même temps remercier Dieu puis être débordant de reconnaissance. Ça va pas ensemble. Voyez-vous? Il faut choisir le DVD qu'on veut garder dans notre esprit. En considérant le but réel de notre appel, là, et ce but-là est grand, la vie éternelle, faire partie de la famille de Dieu, administrer la terre, aider les gens, les guérir, leur annoncer les merveilles de Dieu, parce qu'à ce moment-là, tous les êtres humains vont être appelés. C'est pas le cas maintenant, mais ce sera le cas à ce moment-là. Ça, c'est le but réel de notre appel. C'est extraordinaire. Dieu nous a révélé sa vérité. Et il y a de quoi être positif, il y a de quoi être joyeux, il y a de quoi aimer la vie, malgré les difficultés qu'il peut y avoir à l'intérieur et autour. Parce que pour se rendre de l'autre côté, il faut que je continue d'avancer dans ces circonstances-là. Parfois, elles sont faciles, parfois, elles sont plus difficiles. Psaume 37, allons un petit peu plus loin. Verset 7, c'est encore David. Dans la Louis II, c'est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Encore là, la traduction n'est pas tout à fait, elle rend pas tout à fait le sens ici. Garde le silence, c'est plutôt rest in the Lord. Repose-toi dans le Seigneur. Appuie-toi sur Dieu. C'est ça que ça veut dire. Appuie-toi sur Dieu. Et espère en lui, la meilleure traduction, c'est wait patiently for him. Et attends avec patience qu'il intervienne. Et attends avec patience qu'il intervienne. Une fois que tu t'es confié à lui, que tu as remis tes problèmes entre ses mains, après l'avoir remercié, adoré, louangé et tout ça, lui demander de faire sa volonté, après ça, vous avez mis vos problèmes dans ses mains, et là, vous attendez que Dieu agisse, et vous savez qu'il va agir. S'appuyer sur Dieu. Et si j'aime Dieu, je vais attendre patiemment qu'il intervienne. Honnêtement, là, ce bout-là, il est difficile. Attendre, c'est déjà difficile. Attendre patiemment, c'est deux fois plus difficile. On peut attendre en n'étant pas patient, ça aide à attendre un petit peu. Ça aide pas en réalité parce que ça rend ça plus compliqué. Mais attendre patiemment son intervention, c'est là que c'est un défi pour nous et qu'on a même besoin de son aide pour ça. Vous pourrez aller voir dans Lamentations, un livre qu'on ne voit pas souvent, mais Lamentations 3, verset 26, ça dit exactement la même chose. Il est bon d'attendre en silence, c'est-à-dire sans douter, le secours de l'Éternel. Sans douter, le secours de l'Éternel. Quand j'ai fait ce que je sais devoir faire, même si je ne suis pas parfait, je peux attendre avec pleine confiance son intervention. La patience joue un rôle primordial dans notre développement chrétien. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Humainement, les épreuves, c'est pas drôle. Et quand on est dans quelque épreuve que ce soit, même si on est chrétien, on cherche pas ces choses-là. On n'est pas content des avoir et on désire pas en avoir plus. On n'en demande pas d'autres. On aimerait mieux que ce soit différent. Ça, c'est notre réaction humaine. Mais Dieu nous apprend qu'à travers les épreuves, il développe notre caractère et il nous montre des choses. On est à l'école. C'est ça. Et ce qu'il dit ici, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est pas les épreuves pour les épreuves. C'est pas d'être masochiste, de se faire souffrir. C'est pas ça. Mais il dit, les choses difficiles que vous avez à rencontrer, voyez-les comme des tests pour vous approcher de Dieu et faire sa volonté, développer son caractère. Voyez-les comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez-vous? L'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est le but final à atteindre. On ne l'atteindra pas tant qu'on sera des êtres humains. Dieu a promis qu'il va nous rendre parfaits si nous sommes fidèles jusque-là, le jour où le Christ va revenir. Si on est en train de continuer à devenir parfait, il va nous figer dans cet état. Il va nous rendre parfaits à ce moment-là. Alors, on doit apprendre à être patient. Ça ne vient pas automatiquement. Et on doit apprendre à être patient dans une attitude positive. Dans une attitude positive. En disant à Dieu, montre-moi ce que j'ai à apprendre à travers ce que j'ai à vivre maintenant. Vous savez, on parlait des choix tantôt, là. Vous aussi, vous avez déjà été pris dans une longue file d'attente à l'épicerie ou ailleurs. Là aussi, on a le choix. On est dans la ligne d'attente. On n'a pas le choix d'attendre de passer. Mais on a le choix de nos réactions. On peut être négatif, on peut être stressé, on peut être malheureux, et là, c'est deux fois pire. Ou on peut prendre pour acquis que je vais prendre le temps qu'il faut, je vais penser à d'autres choses, des choses belles, intéressantes, je vais m'occuper autrement, je vais parler à Dieu peut-être dans ma tête, mais je vais rester calme, je vais être patient, je vais avoir l'esprit tranquille. Je vais arriver en même temps à la caisse que je serais arrivé si j'aurais été agité, puis stressé les autres autour. ça ne changera strictement rien. Sauf que la seule chose que ça va changer, ça va être moi, qui aurait été malheureux encore davantage d'avoir été longtemps dans une file d'attente ou dans une salle d'attente. C'est le même principe. C'est ce que signifie « rest in the Lord », s'appuyer ou se reposer sur l'Éternel de Psaume 37, verset 7. Attendre patiemment son intervention. Dieu peut s'occuper de tous vos problèmes et il va le faire, comme je dis, en son temps et à sa façon, si vous faites votre part, si vous restez calme dans la ligne d'attente. Si vous avez fait votre part, là, vous êtes confiant qu'il va intervenir pour vous. Aussi simple que ça. Vous savez qu'il va intervenir pour vous. Dans certains cas, je dois faire une précision, par exemple. Dans certains cas, si la non-tranquillité ou l'angoisse persiste ou le négativisme persiste, parfois, il faut s'examiner. Ce n'est pas le cas de tout le monde chaque fois, mais parfois, il faut s'examiner. Ça peut arriver que ce soit notre cœur tortueux à ce moment-là, qui ne veulent pas reconnaître une faute ou un péché, qu'on ait quelque chose qu'on ne veut pas changer, qu'on veut garder dans notre vie, ou qu'on change à moitié en se disant « moi, je fais la volonté de Dieu, ça va lui plaire certainement », mais où je ne change pas complètement. Ça peut être mon cœur tortueux qui fait que je ne plais pas complètement à Dieu, que je ne marche pas totalement avec lui. Et à ce moment-là, Dieu ne répond pas à mes prières. Et là, j'ai encore raison d'être négatif, parce qu'il ne se passe rien. Et il ne se passera rien jusqu'à temps que j'ai compris ma leçon. Ça va loin. Dieu parfois nous laisse aller loin pour qu'on apprenne des choses. Mais c'est par amour, c'est tout le temps par amour. C'est pas pour qu'on souffle, là. Mais je vous dis que dans certains cas, ça peut arriver que ça nous demande un examen personnel. Dire, si je suis porté à être toujours négatif, c'est peut-être parce qu'il y a de quoi dans ma vie qui n'est pas réglé, que je ne veux pas régler, ou que mon cœur tortueux ne veut pas voir, ou refuse de faire l'effort de changer. C'est possible. Mais si je fais confiance à Dieu, si je fais ma part, je vais rester calme et je vais avoir confiance en lui. Et plus on fait ça, plus on apprend à expérimenter de marcher avec Dieu. On se rappelle ce que Dieu a fait pour nous. On se rappelle comme David a fait ce que Dieu a fait pour les autres. Et on dit, c'est le même Dieu, il va continuer à faire la même chose pour moi. Vous irez voir dans Ésaïe 30, verset 15, c'est écrit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi ni de vous. Mais une fois qu'on connaît la recette, on peut l'appliquer et ça donne des résultats. Voyons l'exemple de Job rapidement. Vous savez, Job a eu misère intense. Mais pareil comme David, lui, n'a jamais douté de Dieu. Il se demandait ce qui se passait, bien sûr. Il ne comprenait pas la raison de ses épreuves. Et des épreuves, il y en avait, pas une seulement, il y en a eu plusieurs, et il se posait des questions. Mais jamais, au grand jamais, il n'a douté de Dieu. Pareil comme David. Dans son découragement, que je peux dire passager, vous avez lu les textes sûrement, il a même désiré mourir, et il a maudit le jour de sa naissance. Tellement, il était malheureux, tellement c'était lourd sur lui ce qu'il avait à passer. Mais jamais, malgré ça, il n'a douté de Dieu. Il n'a douté de l'existence de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse. Quand vous regardez tout le livre de Job, c'est ça qu'on voit. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. C'est vraiment très révélateur lorsqu'on regarde ce que Job a vécu et comment il a réagi. Même après avoir perdu tous ses enfants et tout ce que Job possédait, Job a quand même continué à garder une attitude positive vis-à-vis son Créateur. Job 1, verset 20 à 22. Là, Job venait de perdre tous ses enfants, tous ses biens. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et c'est vrai, tout nous vient de Dieu, la vie, la santé, la famille, l'air qu'on respire et tout. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il n'a pas mis en question Dieu à ce moment-là. Et regardez le verset 22. « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Sur le plan humain, il aurait peut-être pu dire, « Écoute, j'essaie d'être ton serviteur, j'essaie d'appliquer la loi comme il faut. » On voit qu'au début du livre de Job, Dieu le considère comme un juste. Job aurait pu invoquer ça et dire, « Dieu, garde, j'ai agi comme un juste. » Et là, il m'arrive tout ça, qu'est-ce qui se passe? Non, il a posé des questions, mais il n'a jamais remis en question Dieu. Il n'a jamais douté de Dieu. Et après ça, il y a d'autres épreuves qui l'ont frappé. Vous savez qu'il y a eu un ulcère malin sur tout son corps. Et là, l'élément patience a joué. Voyez ce que la Bible déclare, ce que Job a déclaré au milieu de ses souffrances. Job, chapitre 19. Job, chapitre 19. C'est fantastique quand on regarde ça dans cette perspective-là. Job, chapitre 19, et le verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et là, il commence à parler de la résurrection des morts ici. « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Autrement dit, quand je serai mort, quand mon corps sera retourné à la poussière, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, lui, après que ma peau aura été détruite. Moi-même, je contemplerai Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait dire « je contemplerai Dieu » alors que son corps sera détruit? Job savait la résurrection. On le voit plus tard, on le voit dans d'autres versets ailleurs, que Job savait qu'il y aurait une résurrection des justes qui allait venir. « Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Il espérait ce jour-là, au-delà de sa vie présente à ce moment-là, où il était sur le point de mourir littéralement. Il dit, « Je sais qu'un jour, je vais le voir, mon Créateur. Et là, ça va être bon. Ça sera un autre monde. Quoi qu'il m'arrive maintenant, même si je ne comprends pas pourquoi, je sais que je vais être là. Parce que je suis fidèle. » Voyez-vous? C'est tellement encourageant quand on voit les choses de cette façon-là. Et la clé de tout ça, c'est de toujours se rappeler le but de la vie. Ce que Dieu est en train d'accomplir. Et le but de notre appel. Pourquoi on est appelé? On est appelé à connaître la splendeur de la vérité de Dieu. Et il y a une seule vérité biblique. Dieu nous la révèle. Et si nous la comprenons, ça nous est donné. C'est pas parce qu'on est plus intelligent ou plus fin ou plus méritant que d'autres. Ça nous est donné. Dieu nous appelle de façon gratuite. Il appelle les choses faibles et folles du monde. Et il nous donne de comprendre des choses que les grands savants du monde n'arrivent pas à saisir. Pas parce qu'on est plus intelligent, mais parce que Dieu nous le donne avec la responsabilité de vaincre. Et il nous donne la responsabilité d'accomplir son œuvre. On a une part à jouer. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, s'il vous plaît. Tant et aussi longtemps qu'on s'applique à faire notre part, on peut avoir le cœur joyeux, le cœur heureux, le cœur positif, quelles que soient les circonstances, même s'il y a des larmes parfois. Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes. » Les prophètes ont été patients. Et on voit leur vie dans la Bible décrite très bien. « Prenez comme modèle de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Verset 11, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Souffrir patiemment. Vous avez entendu parler, et là, il donne l'exemple de Job. De la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et vous savez que même au cours de sa vie, par après, Dieu a guéri Job. Et après ça, Dieu l'a béni deux fois de tout ce qu'il y avait auparavant. Et on sait que Job sera dans le royaume et qu'il va occuper un poste particulier dans le gouvernement de Dieu sous le Christ. Alors, la bénédiction, elle était même déjà là de son vivant et ensuite, plus tard dans le monde à venir. La plus grande bénédiction que nous avons reçue, c'est que Dieu nous a appris à comprendre sa vérité, qui est la vérité. Il n'y en a pas deux. Le Christ a dit, ta parole est la vérité. C'est pas les vérités. Il nous a appelés à comprendre sa vérité puis à faire partie de son Église, de son petit troupeau actuellement. Si on marche avec Dieu, il va toujours être proche de nous et il va nous aider constamment en toutes circonstances. C'est une promesse infaillible. Dieu va le faire si nous faisons notre part. Je reviens toujours au « si » parce que nous, quand on diminue le « si », là, quand on fait moins notre part et qu'on commence à ralentir puis à s'éloigner, ne soyez pas surpris. Si les interventions et les réponses de Dieu sont plus éloignées, plus lointaines, moins fréquentes, parce que justement, on est moins avec lui. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Si vous vous éloignez de moi, l'inverse est vrai, je vais m'éloigner de vous. C'est ça. Alors ça, c'est toujours la recette. On n'a pas à garder de pensées négatives, ni d'inquiétude, mais il faut garder les yeux sur le Christ qui nous donne la foi et qui la mène à la perfection. Ma foi à moi humaine ne vaut rien. C'est la foi de Christ qui vaut quelque chose. Et c'est la foi de Christ qu'on peut demander et recevoir. C'est lui qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Vous pourrez aller voir dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 4. Hébreux 12, versets 1 à 4. Laissez-moi vous citer, j'ai dit c'est trop beau, c'est trop encourageant, un passage que M. Appartient a écrit il y a plusieurs années à ce sujet-là. Il dit « Goûtez la vie, appréciez le fait d'être vivant, appréciez l'Église, appréciez la famille que Dieu vous a donnée. Quels que soient vos problèmes et vos épreuves, remettez-les entre les mains de Dieu, qui a promis de combattre pour vous. Quand nos ancêtres ont rencontré des obstacles, ils ont constamment douté de Dieu et de ses intentions. » Vous vous rappelez, les Israélites ont dit, « Ah, oh, Dieu a voulu nous emmener mourir au désert. Ici, avant, on était bien en Égypte, on avait de quoi manger, là, ici et ça. » Ils ont commencé à accuser Dieu, à lui prêter des mauvaises intentions. Par contre, leur chef, Moïse, n'a jamais douté de Dieu. Le peuple voulait retourner en Égypte. Moïse ne l'a jamais voulu. Les Israélites voulaient faire des compromis avec les lois de Dieu. Moïse ne l'a jamais fait. Ne pensez jamais à abandonner et à retourner dans le monde. Ne pensez jamais à abandonner et à retourner dans le monde. Ne désirez jamais altérer les lois de Dieu. Les modifier un petit peu, faire des compromis pour qu'elles correspondent davantage à vos propres besoins et désirs égoïstes et à votre style de vie personnel. Autrement dit, adapter les lois de Dieu à notre choix de vie plutôt que d'adapter notre vie aux lois de Dieu. Certains sont prêts à faire des compromis pour avoir un meilleur emploi, par exemple, ou pour avoir plus d'amis. Mais quand vous commencez à faire des compromis, vous commencez aussi à douter de Dieu. Ça se comprend? Parce que si je commence à faire des compromis, je m'éloigne de Dieu. Et plus Dieu est loin, moins il est réel. Et moins je me sens solide, moins j'ai confiance. Dieu nous a fait des nombreuses promesses, mais n'oubliez pas, ces promesses-là sont conditionnelles. Elles sont conditionnelles. Si on ne respecte pas les conditions des promesses divines, ces promesses-là ne s'accompliront pas dans nos vies. C'est un ou c'est l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Dieu nous donne le temps de changer. C'est une autre chose. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait maintenant. On va devoir retourner demander pardon jusqu'au retour de Christ, mais il va falloir être en lutte vraiment sérieuse et faire tout ce qu'il faut. On devient négatif lorsqu'on ne fait pas notre part. Quand on ne fait pas notre part comme il faut, on commence à trouver des points de négativisme. Et on commence à se plaindre. On se justifie de faire les choses qu'on fait. On trouve des raisons de les faire. Et on commence à accuser les autres. Quand on commence à accuser les autres, c'est parce que nous-mêmes, on ne fait pas notre part. Il y a toujours un phénomène de transfert qui se fait dans ce sens-là. C'est un symptôme. Je ne vous apprends rien. L'apôtre Paul nous a dit clairement, puis il l'a vécu, que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et ça consiste à résister aux influences négatives du monde, de la société mauvaise autour de nous. Ça consiste à résister aux attaques de Satan et de ses démons qui font tout pour nous influencer, par toutes sortes de moyens, pour nous faire douter, pour nous persuader de devenir négatifs. Pour nous persuader de devenir négatif. Et s'il peut nous amener à devenir négatif, on est, selon lui, sur la bonne voie pour nous éloigner de Dieu et pour qu'il puisse faire de nous des victimes. Mais il y a une chose qui est encourageante, qu'il faut se rappeler. Dieu ne fait pas les choses à peu près quand il appelle quelqu'un maintenant, parmi les quelques-uns qu'il appelle maintenant dans le monde. C'est que Dieu appelle ceux qui peuvent vaincre leur faiblesse, peuvent vaincre Satan, et peuvent vaincre le monde de Satan par la puissance de Dieu. Ceux qui peuvent le faire, par sa puissance, c'est ceux-là que Dieu appelle. C'est une des raisons pourquoi vous êtes appelés. Il y a sûrement d'autres raisons. Mais Dieu a vu dans vous qu'avec son aide, vous pourriez y arriver, alors que d'autres, avec son aide, dans le moment, n'y arriveraient sans doute pas. Et par amour pour eux, il ne les appelle pas maintenant. Il va les appeler lorsqu'ils vont avoir le plus de chances de réussir à arriver, voyez-vous? Et si c'est dans le monde à venir, alors que ce sera plus facile, que Satan va être éliminé, qu'il ne sera plus là, bon, mais tant mieux, ce sera leur chance et ils pourront arriver au but à ce moment-là. Nous pourrons atteindre le but. C'est quoi la recette pour y arriver? Allez à Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Quoi la recette pour arriver au but? Pour vaincre Satan, notre nature humaine, le monde de Satan? Pour nous qualifier, pour être jugés dignes d'échapper aux choses qui viennent, d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, de recevoir la couronne de vie éternelle, d'avoir notre récompense selon le travail qu'on aura fait. C'est quoi la recette? C'est de devenir des Josué. De devenir comme Josué, mais je vais plus loin, de devenir des Josué. Lui, il savait le but de la vie, il savait le but de sa vie. Il en était tellement convaincu qu'il n'y avait rien pour le dissocier de ça. Et vous vous rappelez, à un moment donné, presque une grande partie de la nation voulait faire autrement. Josué a dit, branchez-vous. Dites sur quel bord vous êtes. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Moi, je ne suis pas sur la clôture. Moi et ma famille, nous allons suivre l'Éternel. Formidable. Il savait le but de son appel. Et il a toujours respecté cet engagement-là. Et nous, on doit devenir comme Josué, à qui Dieu a donné la victoire totale, parce qu'il a mis en Dieu sa confiance totale et qu'il s'est efforcé de lui obéir, même s'il n'était pas parfait. Lisons en terminant Josué 1, versets 8 et 9. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Ça, c'est au moment, après la mort de Moïse, où Dieu a confié à Josué la direction du peuple israélite pour les amener en terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vous ai dit tantôt que chaque jour, on devait étudier, on devait se nourrir de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voyez-vous, pour conformer notre vie, pour pas seulement parler de Dieu, mais agir comme Dieu veut que nous agissions. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pourquoi? Parce que Dieu va être avec lui. Et regardez par après, « Car alors tu réussiras. » Verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. N'aie pas peur, ne sois point inquiet. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Voilà pourquoi un chrétien est positif.